les rendez-vous de la francophonie cette année. Ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir célébrer conjointement avec la FJCF. Et pour savoir c'est quoi la FJCF, c'est pas juste des lettres, c'est beaucoup plus grand que ça. Et on parle avec José, qui est à la direction générale. Bonjour!
Salut!
Donc, la FJCF, qu'est-ce que c'est que cette chose?
La Fédération de la jeunesse canadienne-française a été fondée il y a maintenant 50 ans pour représenter les intérêts, les aspirations, les besoins de la jeunesse d'expression française de 14 à 25 ans d'un bout à l'autre du pays. Donc, une fédération qui prend toute son importance dans notre philosophie de base qui est le par et pour les jeunes. Donc, notre gouvernance est entièrement gérée par des jeunes du groupe d'âge, donc de 14 à 25 ans. Et avec l'équipe qui est en place, notre rôle, c'est d'assurer la mise en œuvre de cette vision qui est évoquée par cette jeunesse-là, qui est dynamique, très diversifiée et répartie partout à travers notre beau et grand pays.
Et on parle de combien de jeunes présentement qui font partie de la FJCF concrètement?
Bien, notre conseil de direction est formé de 15 personnes, donc 3 personnes élues, donc la présidence, la vice-présidence, la trésorerie, et ensuite une personne qui représente chacun de nos 12 membres qui sont dans 12 provinces et territoires.
D'accord. Et là, bon, j'imagine qu'il y a 50 ans, tu n'étais pas vraiment dans la
Non.
FJCF.
La réponse est non.
Non, c'est parfait. Mais comment ça a débuté? J'imagine que la situation, bon, le contexte n'est pas pareil entre il y a 50 ans et aujourd'hui, mais aussi la FJCF, ça, j'imagine, ça a changé aussi depuis les 50 dernières années.
Totalement. La FJCF a été les débuts de la fédération. Faut comprendre le contexte, comme tu disais. À l'époque, il y a 50 ans, il y avait très peu d'événements où est-ce qu'on rassemblait des francophones d'un peu partout à travers le pays. En fait, une des seules occasions pour les francophones de se voir, c'était dans le cadre du congrès annuel de l'ASELF, l'Association canadienne d'éducation de langue française. Quelques années, donc la FJCF a été fondée en 1974, mais quelques années avant, donc en 73 entre autres, la SELF a fait une place à inviter des jeunes au congrès de la SELF. Et donc, les jeunes sont arrivés là, des jeunes un peu partout à travers le pays, puis ils ont constaté que le personnel enseignant, donc le milieu de l'éducation, avait son rassemblement annuel à la SELF. Puis ces jeunes-là se sont dit, ben pourquoi qu'on n'aurait pas notre propre regroupement, si on veut, pour parler juste des questions qui portent sur la jeunesse, en fait. Donc, il y a eu plusieurs rencontres qui ont eu lieu, puis en 1974, c'est là que la fédération, à l'époque, s'appelait la Fédération des jeunes canadiens français. C'est à cette époque-là que il y a eu une première rencontre officielle de la FJCF, et c'est de là que le processus a été entamé pour incorporer la fédération. C'est comme ça que ça a commencé. En fait, ce souhait des jeunes de pouvoir se rassembler, de faire leur mise en commun, de pouvoir créer un aspect de communauté au niveau pan-canadien. Comme personne vivant en situation minoritaire, la notion d'identité est super importante, puis d'avoir des occasions de vivre ces identités intersectionnelles aussi, c'était super important, bien qu'on n'utilisait pas ces termes-là nécessairement il y a 50 ans, mais on comprend maintenant qu'il y avait ce besoin-là pour les jeunes de se rassembler, d'être avec des gens qui leur ressemblent, qui ont des affinités. Et on peut voir que 50 ans plus tard, cette notion de gestion par et pour les jeunes demeure. Et ce que ça représente, ça, c'est que les jeunes sont au cœur de tout ce que l'on fait. La FJCF, en pas des projets sans que ça vienne pas des jeunes. Il faut que ça vienne des jeunes pour que ça ait un réel impact sur le terrain. Donc, voilà, 50 ans plus tard, On est encore là. On est là pour défendre les intérêts des jeunes, les défis aussi de cette jeunesse-là qui ne cesse que d'évoluer. C'est un travail qui est très enrichissant et très nécessaire, pour habiliter ces jeunes-là à prendre leur place dans nos communautés.
Absolument. Puis surtout que quand on y pense, il y a 50 ans, le contact était plus difficile. Aujourd'hui, on va avoir un jeune de la Saskatchewan qui peut sans problème envoyer un message à un autre jeune qui est au Nouveau-Brunswick avec Internet et tout ça. Mais il y a 50 ans, je n'ai pas cette réalité-là. Bon,
Non.
il y a 50 ans, je n'étais pas là, mais aussi que je pense situation minoritaire, mais j'imagine quand même le jeune. Je pense peut-être que c'est un des rares francophones qui aimerait s'en avoir d'autres contacts. Il y a 50 ans, ça devait être pas mal plus difficile qu'aujourd'hui. Puis
Absolument.
aujourd'hui, c'est le fun de voir que ça se poursuit, même s'ils peuvent se contacter. C'est pas si facile que ça, pareil, tu sais.
Non, en effet, puis, tu sais, je veux dire, à l'époque, il y a 50 ans, d'abord, d'être un francophone vivant en situation minoritaire, ça peut être très isolant parfois. On peut se sentir seul. Tu sais, je veux dire, si j'habite à Fort Smith, au territoire du Nord-Ouest, c'est pas nécessairement évident qu'il va y avoir d'autres jeunes de mon âge, avec les mêmes intérêts et tout. Donc, ça peut être isolant. Puis, le fait de pouvoir rassembler ces jeunes-là, puis c'est les jeunes qui nous disent, là, c'est pas moi qui le dis, mais c'est les jeunes qui nous disent que c'est absolument nécessaire pour leur permettre de pouvoir pleinement vivre de leur culture, de leur langue, mais encore plus important, de créer un attachement à cette culture et à cette langue-là. Donc, si on est tout seul dans un petit milieu, c'est très difficile de faire ça. Et oui, les moyens de communication il y a 50 ans, ils sont très différents qu'aujourd'hui. Je veux dire, écrire des lettres à des amis qu'on a peut-être rencontrés à un moment donné, pas aussi facile et instantané que d'envoyer un petit message personnel sur Instagram ou peu importe. Alors, oui, les choses ont changé, mais n'empêche que même si les moyens de communication ont changé, ce qui n'a pas changé, c'est ce besoin de se voir, de vivre des événements ensemble, de vivre des moments charnières dans notre développement personnel et professionnel ensemble. Donc, c'est beaucoup ce que la FJCF fait. On travaille beaucoup sur la construction identitaire des jeunes d'expression française. Puis quand on dit expression française, pour nous, c'est super important de préciser que on s'adresse pas ici juste à des jeunes qui ont le français comme langue maternelle. On s'adresse à des jeunes d'expression française, donc qui ont le français comme langue d'usage, que ça soit la première langue ou la huitième langue, si on parle français. Il y a de la place pour toi au sein de la fédération.
Oui, effectivement, parce que des fois, il y en a qui peuvent se sentir peut-être un peu, sentir une certaine pression. OK, ça m'intéresse, mais bon, mon français, c'est pas ma langue première et tout ça, mais il y a une ouverture. Justement, je vais en profiter pour prendre la vague au passage. Il y a plusieurs projets avec la FJCF, entre autres la Stratégie nationale de la sécurité linguistique. Parlons-en, c'est quoi ce projet-là?
En fait, c'est un gros travail qui a été fait, qui a été mené par la fédération conjointement avec plein d'autres organismes nationaux. Donc, c'était vraiment une stratégie. L'objectif était que ce soit une stratégie qui soit intersectorielle, donc différents secteurs qui collaborent vers un enjeu de société, et aussi une stratégie intergénérationnelle. Donc, c'est pas juste une stratégie qui vise les jeunes, mais qui vise toutes les composantes démographiques de notre société, parce que la notion d'insécurité linguistique, donc ce défi de percevoir que notre français n'était pas à la hauteur de celui de quelqu'un d'autre, d'avoir cette insécurité de bien s'exprimer, avoir cette crainte de s'exprimer par peur justement de faire des erreurs, de se faire juger et tout. L'insécurité linguistique, c'est pas un enjeu qui est spécifique à la jeunesse. Toutes les groupes démographiques de notre société vont vivre une insécurité linguistique d'une façon ou d'une autre. Puis encore là, l'insécurité linguistique, ça se vit pas nécessairement juste en milieu minoritaire. Ça se vit aussi, tu sais, je veux dire, moi, je suis franco-ontarienne, puis il m'arrive parfois d'avoir une certaine insécurité quand je peux parler à quelqu'un qui vient du Québec. Mais d'un autre côté, quelqu'un du Québec peut avoir une certaine insécurité par rapport à son parler, par rapport à quelqu'un qui vient de la France, par exemple. Donc,
Oui.
c'est vraiment un enjeu où, ben c'est ça, c'est un défi qui est commun. Puis veut veut pas, on n'est pas toujours au courant que cette insécurité-là, ça se vit différemment, puis ça se vit souvent par plein de personnes, mais on n'en parle pas. Donc la stratégie nationale pour la sécurité linguistique a été créée après des sondages, après un symposium national pour regrouper des gens qui se sont penchés sur la question, qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour accroître la sécurité linguistique dans toutes les sphères de nos communautés? Alors, on s'est penché sur la composante de l'éducation. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment en matière d'éducation pour favoriser une meilleure sécurité linguistique? On s'est aussi penché sur le milieu du travail, sur les politiques publiques, sur les médias et les communications en général. Donc, bref. C'était vraiment un travail de longue haleine qui à ce jour, est encore très pertinent parce qu'on est plus dans une phase de mise en œuvre maintenant. Et donc, c'est pas juste la FJCF qui est responsable de faire la mise en œuvre de cette stratégie-là. Chaque organisme, chaque individu a un rôle à jouer pour favoriser la sécurité linguistique de tous les parlants français à travers le pays.
Absolument, justement, chaque individu, parce que j'en ai croisé dans le cadre de la tournée Bonjour My Friend pour
Oui.
l'anniversaire des langues officielles, j'ai eu la chance de faire partie du projet, de rencontrer des jeunes dans des écoles qui avaient des cours de francisation. J'étais à Moose Jaw. On posait la question aux jeunes comment ils se sentaient par rapport à parler français et plusieurs avaient un blocage, n'osaient pas le faire de peur de se faire regarder de travers, de se faire juger, de se faire dire c'est pas comme ça qu'il faut dire ça, mais de façon assez bête et même pas constructive. Puis moi, personnellement, quand j'ai entendu ça, j'avais le cœur brisé. Je me dis, oh mon Dieu, pauvres eux autres, ils essayent, ils veulent faire un effort, puis ils se font bloquer. Ça a été un portrait assez frappant,
Absolument.
malheureusement. Donc, c'est le fun que le
Puis
projet, justement, existe.
oui, puis en même temps, ce cas-là, c'est pas un cas isolé, en fait. C'est ce
Non.
qui est encore plus triste. Parce que c'est des histoires comme ça qu'on entend régulièrement partout à travers le pays.
Ouais.
Donc, ce que la stratégie dit là, c'est pas qu'on arrête d'apprendre le français, aucunement. C'est très important d'avoir des cours de français, mais tout est dans le contexte. Il y a des contextes où est-ce qu'on est en mode apprentissage de la langue, mais il y a aussi des contextes qu'il faut laisser les jeunes et les moins jeunes juste vivre en français.
Ben oui.
Et donc, cette crainte de toujours se faire corriger dans la cour d'école ou dans une réunion ou peu importe, faut comprendre le contexte. Il y a des contextes d'apprentissage où est-ce que c'est correct de pouvoir reprendre, de pouvoir apprendre, mais il faut aussi comprendre que comme parlant français, il y a des moments que je vais peut-être faire des erreurs de syntaxe, puis tout ça, puis c'est correct. C'est un peu les particularités de notre langue. Ça, c'est ce
Oui.
qui donne la couleur ou une saveur à notre langue. Puis c'est ce qui fait qu'elle est tellement riche aussi de par nos expressions, nos régionalismes. C'est quand même un beau cadeau de pouvoir se promener à travers le pays, de parler en français, puis de comprendre qu'une personne vient peut-être d'une telle région parce que je reconnais peut-être une expression particulière. Mais il faut célébrer ça au lieu de tenter de normaliser le français. Je pense que tout est dans le contexte. Voilà.
On veut pas que le français devienne une langue beige, qu'il n'y a plus de couleurs, que ça soit plate, là. On veut pas aller là. Et comme tu dis,
Non.
c'est ça qui est le fun, c'est toutes les couleurs qui apportent un accent, une expression et tout ça. C'est ce qui est merveilleux là-dedans. Puis il faut que les jeunes continuent là-dedans aussi. Puis on parle aussi des moins jeunes, évidemment, dans ce projet-là. Et un autre projet, parce qu'il y en a plusieurs, on ne pourra pas toutes les passer. Je vais inviter les gens à visiter le site de la FJCF pour découvrir tous vos projets. Tendre l'oreille aussi quand ils entendent FJCF, ils vont dire, oh, les jeunes ont un autre projet. Mais entre autres, le Parlement jeunesse pancanadien. Donc, ça, globalement, à quoi ça ressemble, ce projet-là?
Donc, c'est une simulation parlementaire. Ça fait, on s'apprête à à présenter la 12e édition du Parlement jeunesse pan-canadien. Donc, on invite des jeunes de partout à travers le pays, encore une fois, de se rendre à Ottawa, dans la Chambre haute, donc dans la Chambre du Sénat, pour débattre de projets de loi qui sont fictifs, qui sont rédigés par et pour les jeunes. Donc, les jeunes vont s'exprimer sur ces projets de loi-là, puis on va un peu recréer ce qui se passe dans la Chambre des communes, en fait. Le processus parlementaire, donc, c'est les objectifs. Les objectifs sont multiples pour cet événement-là. De pouvoir comprendre un peu l'appareil gouvernemental, comment fonctionne l'appareil démocratique au Canada. C'est aussi une façon de rassembler les jeunes, de pouvoir comprendre les réalités de tous et chacun, de créer ce sentiment de communauté au niveau pan-canadien. Mais c'est aussi une façon pour nous de contrer l'insécurité linguistique, parce que dans la Chambre des communes, dans le cas du PJP, ça se passe dans le Sénat, mais quand les jeunes se lèvent en chambre pour prendre parole, pour défendre un point sur un projet de loi fictif, ça leur donne la chance de s'exprimer.
Oui.
Et donc, toutes les chances pour nous de donner la parole aux jeunes, c'est important. Voilà, puis ça permet aussi aux jeunes de pouvoir s'adresser, ou plutôt de s'exprimer sur des enjeux d'actualité sous forme de projets de loi fictifs qui vont être rédigés par les jeunes. Donc, plusieurs objectifs très multiples, mais en même temps, un événement qui est tellement apprécié et attendu par les jeunes. Justement, on est dans cette 12e édition-là, comme je viens de mentionner. Donc, on aura la chance cette année de faire un petit clin d'œil au 50e anniversaire de la MJCF, au passage.
En plus, c'est effectivement ce qui est le fun avec un projet comme ça. Des fois, de l'extérieur, on peut dire, bon, c'est de la politique, les projets de loi, mais quand on est dedans, c'est complètement différent pour avoir vécu une expérience similaire. Donc, clairement, les jeunes vont vivre de quoi d'unique. Et pour ça, on parle de combien de jeunes à peu près qui participent à ce Parlement-là chaque année?
On va viser une soixantaine de jeunes cette
quand
année,
même.
Donc c'est quand même un petit peu plus petit que d'habitude, évidemment, comme on sait, les choses coûtent tellement plus cher maintenant, mais ça va être quand même soixantaine de jeunes qui vont avoir la chance d'être là. Mais c'est aussi un autre objectif du Parlement jeunesse, c'est de pouvoir voir, pour que les jeunes puissent tester un peu leur niveau d'intérêt pour la politique. Parce que on souhaite que... Évidemment, c'est pas l'objectif pour tous les jeunes, parce qu'évidemment, tout le monde a ses propres intérêts, ses propres aspirations, mais quelqu'un qui s'intéresserait potentiellement à la vie politique à tous les niveaux, que ce soit au niveau fédéral, au niveau provincial, territorial, ou encore même au niveau municipal. On a déjà eu une jeune qui a participé au Parlement jeunesse pan-canadien qui a eu un coup de cœur et l'année suivante, à l'âge de 18 ans, a été élue conseillère municipale dans sa communauté. Donc, ça, c'est des histoires à succès, certainement, mais c'est aussi de contribuer à cet éveil-là. Tous les projets de la Fédération ont pour objectif de pouvoir créer un moment de découverte pour les jeunes, pour qu'ensuite, ils puissent faire leur propre chemin vers leur avenir et tout ça. Mais c'est certain que... comme francophone en situation minoritaire, on a besoin de prendre notre place, de faire entendre notre voix. Et si le Parlement jeunesse pan-canadien peut initier ou peut encourager les jeunes de faire carrière en politique, ben c'est certainement au bénéfice de toutes les communautés francophones en situation minoritaire à travers le pays.
Absolument. Et pour terminer, on l'a mentionné, c'est les 50 ans de la FJCF. Comment on veut célébrer ça, les 50 ans?
Ben, on a réfléchi beaucoup à ça, à nos objectifs qu'on voulait se donner. Puis, en fait, c'est à plusieurs niveaux. C'est certain que quand on parle de 50 ans, on veut retracer un peu notre histoire. Donc, la FJCF est dans le processus de rédiger un livre historique institutionnel, donc le parcours institutionnel de la Fédération depuis sa création. Donc, on va se retourner vers le passé pour repasser un peu nos grands moments, mais c'était super important pour nous de pouvoir aussi se tourner vers l'avenir. Parce que Évidemment, après 50 ans, on ferme pas boutique. Là. L'idée, c'est qu'on soit là un autre 50 ans. Donc, de permettre aux jeunes de pouvoir imaginer un peu notre avenir collectif, puis qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines années. Donc, ça va être aussi ça dans le cadre du Parlement Jeunesse Pan-Canadien, mais aussi dans le cadre du Forum Jeunesse Pan-Canadien, qui est un autre événement qui va arriver à l'automne 2024. Ça va être un moment, justement, de se tourner vers l'avenir, puis d'imaginer ce qui nous attend pour la fédération, mais aussi pour les jeunes un peu partout à travers le pays. Puis on va clôturer cette 50e année avec un gala du 50e qui va avoir lieu le 2 novembre 2024. Donc tous les détails viendront en temps et lieu, mais ce qui est encore plus important dans notre 50e, c'est qu'on va célébrer tout ça avec nos partenaires. Oui. Entre autres, les Rendez-vous de la francophonie qui ont généreusement accepté de faire un clin d'œil à cette jeunesse d'expression française dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie 2024. Donc, on est super reconnaissant de ces organismes et événements qui croient en cette jeunesse, qui croient dans la fédération au point où on dédie une édition ou une thématique justement pour reconnaître l'importance des jeunes dans nos communautés. Donc, un gros merci à tous les partenaires qui vont célébrer avec nous.
Ben moi, je vais te remercier à mon tour pour présentement, tu es à la direction générale de la FJCF, mais de tout ce qui se fait autant de ton côté, du côté de la FJCF, de nous avoir partagé aussi tout ça. Pour ceux qui connaissaient pas la FJCF, j'espère que vous allez tendre plus l'oreille au projet, mais aussi aller pousser votre curiosité plus loin, aller sur le site de la FJCF, découvrir ces projets-là, parce que c'est inspirant de voir ce que les jeunes font, les projets qui ont aussi de l'implication qu'ils font là-dedans. C'est super important, puis c'est super, super, super le fun que ça existe. Donc, je vais te dire un grand merci, aussi un bon 50 ans pour les FJCF et aussi des bons rendez-vous de la francophonie.
Absolument. Merci beaucoup. Puis ça a été un plaisir de jaser avec vous. Puis oui, fjcf.ca, c'est notre site web. Puis tous les détails de tout ce qu'on fait s'y retrouvent. Merci beaucoup.